Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Erchin, page 17, Daf Yud Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Pour Anot Mizdamenet Lor, celui qui a eu 40 jours sans souffrance, c'est qu'un vrai malheur va lui tomber dessus. Tania Rabbi Eliezer Agadol Omer, on a appris dans la Braïta, Rabbi Eliezer le Grand nous dit, il m'allait, Akadosh Baruch Hu, im Avraham, Yitzhak, Yaakov, Bedin, en yocholim la'amod nipnet tochecha. Si Hachem avait voulu s'en tenir à la stricte justice, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'auraient pas pu tenir face aux reproches qu'Hachem pouvait leur faire. Che Nehemar, comme dit le verset, ve'ata yitiatzvu ve'shavta etchem lifne Hachem, et Shmuel a dit au peuple, et à présent, tenez-vous là, je vous prends à partie devant Hachem, et kol titkot Hachem, Asher asa etchem ve'et avotechem, pour vous rappeler tous les bienfaits que Hachem a fait avec vous et avec vos pères. Donc on voit que même avec nos pères, donc nos patriarches, Hachem a dû se conduire avec indulgence. Que veut dire le verset suivant? Ze dor dorshav mevakshe panecha Yaakov Sela. Telle est la génération et ses dirigeants qui recherchent ta face Yaakov Sela. Donc dans ce verset, il y a une comparaison entre le dor et le dorshav. La génération et son dirigeant. Pligeba Rabbi Yehuda Nesia Verabanan. Sur ce propos, il y a une divergence entre Rabbi Yehuda, le chef, et Rabbanan. Chad Amar Dor Lefi Parnas, Vechad Amar Parnas Lefi Doro. D'après un des deux, c'est la génération qui dépend du chef, et d'après l'autre, c'est le chef qui dépend de sa génération. Le Maï Ilchota. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est mal Maal Yuta. Si ceci est dit au sujet d'un mérite de Marsavar, comme quoi un pense Imali Dara Mali Parnas. Si la génération respecte bien la Torah comme il se doit, alors leur chef deviendra aussi un homme juste et scrupuleux. Umar Savar Imali Parnas Mali Dara. Et l'autre est d'avis que si c'est le chef qui est un homme excellent, sa génération le suivra et deviendra bonne. Est-ce que cette règle est juste? Aïke Titkia de Ave Male, Vedare le Ave Male. On a vu à propos de Titkiaou, qui était lui-même chef. Lui-même était un homme extraordinaire, mais sa génération ne l'était pas. Et de même l'inverse, vers Yoyakim de l'Ave Male, de Dare Ave Male, Yoyakim était un mauvais chef, et sa génération était excellente. De Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, comme nous dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai, Maï Dirtiv Bereshit Mamlechut Yoyakim, Melech Yehuda, et on va rajouter un autre verset, Bereshit Mamlechut Titkia Melech Yehuda, pourquoi c'est uniquement à propos de Yoyakim et de Titkiaou que le verset a employé le terme Bereshit Mamlechut au début de son royaume, pour nous dire que Bikesh Akadosh Baruch Hu l'Arzir et Taolam le Tohu Vavohu, à ces deux périodes, Hachem a pensé anéantir le monde et le remettre en état chaotique. Pourquoi cela? Dans la génération de Yoyakim, Bishvil Yoyakim, à cause de Yoyakim, Kivan Shenistakel Bedoro, Nityashva Da'ato, après avoir remarqué les actes de la génération de Yoyakim, il s'est calmé et a changé d'avis. De même, Bikesh Akadosh Baruch Hu l'Arzir et Taolam le Tohu Vavohu, Mipne Doro Shetitkiyahu, Hachem a pensé remettre le monde à l'état chaotique à cause de la génération de Titkiaou, Kevan Chinistakel de Titkiaou, Nityashva Da'ato. Après avoir vu les actes de Titkiaou, Hachem s'est calmé et a changé d'avis. C'est pour cela que le verset a dit Bereshit, comme à la création du monde. On revient à expliquer la divergence, si c'est la génération qui dépend du chef ou l'inverse. Et là, le Enyan Tukfa Venichuta Kamrinan. Ceci a été dit à propos de la colère et de se calmer. Ou bien on va dire, si le chef est coléreux ou calme, c'est sa génération qui va suivre, ou bien l'inverse. Et c'est là qu'on termine le troisième chapitre, celui de Yesh Be'erchin. Hadran Alach, Yesh Be'erchin, Blineder. On espère réviser le chapitre de Yesh Be'erchin. On commence, Bezat Hashem, le chapitre suivant. La Mishnah nous dit, Heseg Yad Benoder, Ve'ashanim Benidar. Comme on l'a déjà vu, en général, celui qui prononce un vœu estimatif, il va devoir donner au temple une somme fixe, d'après l'âge de la personne sur laquelle a été prononcé le vœu. Et que dans le cas où il est pauvre, il n'a pas les moyens de payer la somme, alors on va évaluer ses moyens, et d'après ça, il va payer ce qu'il a promis. Donc nous dit la Mishnah, Heseg Yad, l'évaluation pour voir jusqu'à où sa main peut arriver, en d'autres termes, quels sont ses moyens, Benoder. On ne va pas évaluer la personne sur laquelle le vœu a été prononcé. On va plutôt évaluer les moyens de celui qui a prononcé le vœu. En revanche, vœu Hashanim, comme on l'a dit, que le vœu dépend de l'âge de la personne, non pas de la personne qui a prononcé le vœu, plutôt Benidar, la personne sur laquelle le vœu a été prononcé. V'arichin b'ne'erach. De même, ce vœu estimatif, comme quoi la somme ne dépend pas uniquement de l'âge, mais aussi du sexe. Donc on ne va pas regarder si celui qui a prononcé le vœu est un homme ou une femme, mais plutôt b'ne'erach. Cela dépend de la personne sur laquelle le vœu a été prononcé, si c'est un homme ou une femme. Va'erech bizman ha'erech. Et la somme à payer n'est pas fixée d'après le moment où elle va être payée, mais d'après le moment où le vœu a été prononcé. Disons, s'il a été prononcé quand la personne sur laquelle le vœu a été prononcé avait moins de 60 ans, comme quoi il vaut 50 shekels, et ensuite, quelques jours plus tard, il a dépassé la soixantaine, et donc il en vaut que 15, il va falloir payer d'après le moment où le vœu a été prononcé, donc 50 shekels. La Mishnah explique, « Hesegiat benoder ketsad, l'évaluation des moyens dépend de celui qui a prononcé le vœu. Comment cela, hein? Ani sheerich et ashir noten erich ani. Si celui qui a prononcé le vœu est pauvre, même s'il l'a prononcé sur un riche, il va devoir donner ce que le pauvre donne. On va évaluer ses moyens. Ve'ashir sheerich et ani. Mais si c'est un homme aisé qui a prononcé le vœu sur un pauvre, noten erich ashir. Il n'y a rien à évaluer. Il va donner le maximum, comme s'il l'avait prononcé sur un riche. Aval be korbanot enoken. En revanche, à propos des sacrifices, ceci ne marche pas ainsi. Aresha amar korbano shel metzorazé alay. À propos du lépreux, après s'être débarrassé de sa lèpre, pour compléter sa purification, il va devoir apporter un sacrifice. S'il a les moyens, son sacrifice va être une bête. Et s'il n'a pas les moyens, son sacrifice va être deux oiseaux. Donc celui qui s'est engagé à apporter au temple le sacrifice de tel et tel lépreux, on ne va pas regarder quels sont les moyens de celui qui a prononcé le vœu. Ce qu'on va dire, Haya metzora ani mevi korban ani, ashir mevi korban ashir. Si le lépreux est pauvre, celui-ci va apporter le sacrifice du pauvre. Et si le lépreux est riche, celui-ci va apporter le sacrifice du riche. Rabbi Omer, Omer ani af berichin ken. Nous dit Rabbi, moi je pense que en fait c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre le sacrifice et le vœu estimatif. Pourquoi cela? Vechimipnema ani sherich et ashir noten erich ani. She'en ha'ashir chayav klom. Quand le pauvre a dit, je m'engage à donner l'estimation de un tel. En fait, ce un tel ne doit rien. Et ce n'est pas qu'il s'est engagé à donner ce que le un tel doit. Donc, puisque celui-ci ne doit rien, c'est pour cela qu'on regarde les moyens du pauvre, de celui qui a prononcé le vœu. Par contre, dans le cas suivant, aval ashir shamar erki alay, un riche qui a dit, je m'engage à donner mon vœu estimatif. Donc, à présent, le riche s'est engagé et il a un devoir. Veshamani veamar masha amarze alay. Et un pauvre l'a entendu, et il a dit après lui, ce que celui-ci s'est engagé, je m'engage la même chose, noten erech ashir. Même qu'il n'a pas les moyens, il va donner l'évaluation que donne le riche. Donc la différence entre le vœu estimatif et le sacrifice, en vérité n'est pas une différence du fait que celui-ci est un vœu estimatif et celui-ci un sacrifice. Mais simplement du fait qu'à propos du vœu estimatif, le pauvre s'est engagé à une chose que l'autre ne doit pas. Par contre, à propos du sacrifice, il s'est pris sur lui-même le même devoir que à l'autre. On commence la Gemara. Demande la Gemara, comment la Mishnah nous dit « Heseg yad benoder » Noder, cela se rapporte sur celui qui a prononcé un vœu simple. Donc, demande la Gemara, « Heseg yad bemarichu » Estimer les moyens de celui qui a prononcé le vœu. Ceci est dit uniquement sur le vœu estimatif et non pas sur le vœu simple. Répond la Gemara, que dit-il? La Mishnah a employé le terme du verset « Asher tasig yad anoder » Yarichenu ha-Kohen. Et le Kohen va estimer les moyens de celui qui a prononcé le vœu. Donc de même que le verset pour parler du vœu estimatif va employer le terme de noder, pareil pour la Mishnah. Demande la Gemara sur la suite de la Mishnah. Ashanim benidar, benerach ou. Est-ce que à propos du vœu simple, il y a une différence quel âge a la personne sur laquelle le vœu a été prononcé? En effet, c'est uniquement à propos du vœu estimatif qu'on va regarder l'âge de la personne sur laquelle le vœu a été prononcé. Répond la Gemara. Aide de amar esegiat benoder, amar nami ashanim benidar. Puisque, comme on a expliqué à cause du verset, au début de la Mishnah, c'est le terme de Noder qui a été employé. C'est pour cela que la Mishnah, quand elle a parlé de Shanim, de l'âge, elle a aussi employé le terme de Nidar. Mais en effet, il s'agit uniquement à propos du vœu estimatif. On reprend le passage suivant. Et c'est Geth de Noder Ketzad, Ani Sherichet Ashir, Noten Erech Ani, Maitama. Pour quelle raison? De Amarkra, comme dit le verset, Asher Tasig Yad Anoder, d'après les moyens de celui qui a prononcé le vœu. Donc, Benoder Tel Arachmana. La Torah l'a fait dépendre de celui qui a prononcé le vœu. La Mishnah avait dit, Aval b'korbanot enoken, à propos des sacrifices, ceci ne va pas ainsi. Aresha amar korbanot metzorazé alay, s'il s'est engagé de donner le sacrifice de tel et tel lépreux, aya metzorani mevi korban ani, si le lépreux est pauvre, celui qui a prononcé le vœu va apporter le sacrifice du pauvre, demande la Gemara, va faire le grave de Madiro Ashir, bien que celui qui a prononcé le vœu est lui-même riche, Comment cela est-ce possible? La Torah dit qu'on va apporter le sacrifice du nécessiteur quand la personne concernée est en effet nécessiteur. Et celui-ci, celui qui a prononcé le vœu, il n'est pas pauvre. La Mishnah qui a dit que celui qui a prononcé le vœu va apporter le sacrifice du pauvre, ceci est dit uniquement dans le cas où en effet celui qui a prononcé le vœu est lui-même pauvre. Demande la Gemara, et alors, et peut-être que c'est que sur lui-même, sur le lépreux, que la Torah a eu pitié, mais sur celui qui a prononcé le vœu, bien qu'il est pauvre, il va devoir apporter au sacrifice du riche, étant donné que le verset a précisé, qu'est-ce que ça veut dire, lui-même, le lépreux. Mais si c'est l'autre, celui qui a prononcé le vœu qui est pauvre, il ne pourra pas apporter au sacrifice du pauvre. Amar avadabarava, répond sur cela avadabarava, ven yado maseget, la suite du verset veimdalhu, ven yado maseget, et il n'a pas les moyens, le rabot est anoder. Cela vient inclure celui qui s'est engagé à apporter le sacrifice du lépreux. Sur celui-ci aussi la Torah dit, s'il n'a pas les moyens, il va apporter le sacrifice du pauvre. Demande la Gemara sur cette réponse, aval madiro ashir, achinami de maitebe ashirut. Si on a dit que la Mishnah parlait uniquement du cas où celui qui a prononcé le vœu est pauvre, donc on va déduire que si celui-ci est riche, il va apporter le sacrifice du riche, même que le lépreux est pauvre. Donc tout dépend de celui qui a prononcé le vœu. Imken mai aval be korbanot enoken. Alors pourquoi la Mishnah a dit qu'à propos du sacrifice ceci est différent? Ceci est exactement comme à propos du vœu estimatif. Tout dépend de celui qui a prononcé le vœu.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On tourne la page, on est Yudzaïn Amudbet. Chada metzora ani ou mediro ani. Vechada limute metzora ashir ou mediro ani. À propos du vœu estimatif, dans tous les cas, on va estimer les moyens de celui qui a prononcé le vœu. Et soit s'il l'a prononcé sur un riche ou sur un pauvre, il va donner le vœu d'après ses moyens à lui. Ou be korbanot enoken. En revanche, à propos du sacrifice, ceci n'est pas entièrement ainsi. Chada, dans un des cas, c'est oui ainsi. Ametzora ani ou mediro ani. Si le lépreux est pauvre et celui qui a prononcé le vœu est riche, en effet, dans ce cas-là, il va apporter le sacrifice du riche. Et quand est-ce qu'on va dire qu'il va apporter le sacrifice du pauvre? Uniquement à condition que ce soit ou mediro ani. Le lépreux est pauvre et celui qui a prononcé le vœu est pauvre. Alors en quoi enoken? Quand est-ce qu'à propos des sacrifices, ceci est différent? Vechada limute, ceci vient exclure le cas suivant. Metzora ashir ou mediro ani. Si le lépreux est riche, bien que le mediro, celui qui a prononcé le vœu, est pauvre, il va tout de même apporter le sacrifice du riche. Et donc ceci est différent que le vœu estimatif. À propos de celui-ci, on ne regarde pas la personne sur laquelle le vœu a été prononcé. Et même si celle-ci est riche, du moment où celui qui a prononcé le vœu est pauvre, il va apporter d'après ses moyens. Par contre, à propos du sacrifice, du moment où celui sur lequel le vœu a été prononcé, du moment où le lépreux est riche, celui qui a prononcé le vœu va apporter le sacrifice du riche, même si lui-même est pauvre. J'aurais pu me tromper et penser, étant donné qu'on a commenté et inclus du verset de vœux en yado maseget, le cas où le lépreux est pauvre. Comme quoi, dans ce cas-là, celui qui a prononcé le vœu, si lui aussi est pauvre, il va apporter le sacrifice du pauvre. Donc même dans le cas où le lépreux est riche, on aurait pu croire que la Torah a pris en considération les moyens de celui qui a prononcé le vœu. Et puisqu'il n'a pas les moyens, il va apporter le sacrifice du pauvre. Kamashmelan, c'est pour cela que l'on dit la Mishnah, Aval be korbanot enoken. À propos du sacrifice, si le lépreux est riche, bien que celui qui a prononcé le vœu est pauvre, il va apporter le sacrifice du riche. Que de Tania, comme on l'a vu dans la Brita. Le fils est Matsimu Be'erchin, Ani She'erich et Ashir, Noten Erech Ani, étant donné qu'on a vu à propos du vœu estimatif, que le pauvre qui a prononcé son vœu sur un riche, il va donner d'après ses moyens, comme donne le pauvre, Yachol Af Zeken. Peut-être qu'on va faire la même chose dans le cas du sacrifice. Si celui qui a prononcé le vœu est pauvre, même s'il l'a prononcé sur un lépreux riche, il va apporter le sacrifice du pauvre. Talmud Lomar, c'est pour cela que dit le verset, Imdalhu, le mot hu, si celui-ci est pauvre, vient exclure le cas où le lépreux est riche, bien que celui qui a prononcé le vœu est pauvre, il va apporter le sacrifice du riche. Ou le Rebbe d'Amar, Omer Ani Afber Chinken, et d'après Rebbe qui nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le vœu estimatif et le sacrifice, Alma Batar Chiuva de Gavre, Azlinan, d'après lui, tout dépend de la personne sur lequel le vœu a été prononcé. Si celui-ci avait un devoir, comme par exemple le lépreux, alors l'autre qui a prononcé le vœu va apporter la même chose que le premier devait. Mais si la personne sur laquelle le vœu a été prononcé n'a aucun devoir, celui qui s'est engagé à donner la valeur de un tel ne doit rien, Dans ce cas-là, on va estimer les moyens du donateur. Donc, puisqu'il n'y a pas de différence, alors verra l'otzichakra limouté. On apprend cela par la logique, et il n'y a pas de verset nécessaire, hu limouté mai, que vient exclure le mot hu, limouté metzora ani ou mediro ashir. Cela vient exclure le cas où celui qui a prononcé un vœu l'a prononcé sur quelqu'un qui a un devoir, le riche qui s'est engagé à donner le sacrifice du lépreux pauvre. Salkada atachamina, j'aurais pu penser, ou il va ma rebi batar chiuva de gavra adlinan, puisque Rebi nous dit que tout dépend de ce que doit la personne sur laquelle le vœu a été prononcé, et puisque dans ce cas-là, cette personne, le lépreux pauvre, doit le sacrifice du pauvre, j'aurais pu croire que celui qui a prononcé le vœu va apporter le sacrifice du pauvre. Kamashmanan, nous dit le verset de Hu, c'est uniquement dans le cas où le lépreux est pauvre, que celui-ci va apporter le sacrifice du pauvre. Mais si ce n'est pas Hu, ce n'est pas lui, c'est l'autre, c'est le riche qui a prononcé le vœu sur le pauvre, celui-ci a été exclu, et il va devoir apporter le sacrifice du riche. Pour commencer la nouvelle Mishnah, on se trouve au daf Yudzain Amudbet, on commence la Mishnah. Aya ani ve'eshir, ashir ve'eni, si au moment où il a prononcé le vœu, il était pauvre, et ensuite, avant de donner ce qu'il s'est engagé, il s'est enrichi, ou bien l'inverse, noten erech ashir. Dans les deux cas, il va donner ce que donne le riche. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui nous dit, ani ve'eshir ve'chazar ve'eni, noten erech ashir, même dans le cas où quand il a prononcé le vœu, il était pauvre, et ensuite il s'est enrichi, et de nouveau, avant de payer sa dette, il s'est appauvri, puisqu'il y avait un moment où il était riche, il va donner ce que donne le riche. Aval bekorbanot enoken. Par contre, à propos des sacrifices, ce n'est pas la même chose. Si le lépreux était riche, et quand il devait apporter son sacrifice, il s'est appauvri, il va apporter le sacrifice du pauvre. De même l'inverse, le lépreux qui était pauvre, et avant d'apporter son sacrifice, il s'est enrichi, il va apporter le sacrifice du riche. Afilou met aviv veniach loribo. On retourne au sujet du vœu estimatif. Et même si quand le Kohen est venu pour estimer celui qui a prononcé le vœu, son père est mort et il a hérité de lui 1 million, osfinato bayam ou balo beribot, ou bien justement son bateau est rentré au port chargé de marchandises de plusieurs millions, en l'ekdesh bakloum, il sera estimé d'après ses moyens et pour l'instant il est pauvre. La Gemara va l'expliquer. On commence la Gemara. Ani ve'eshir, d'où est-ce qu'on sait que s'il était pauvre et ensuite il s'est enrichi, il va donner comme le riche? C'est écrit dans le verset, Asher Tasig Yadanoder, d'après les moyens de celui qui a prononcé le vœu. Notamment, à présent, celui-ci a les moyens. Ashir Ve'eni, et d'où est-ce qu'on sait que celui qui était riche, et ensuite il s'est appauvri, il va donner comme le riche, d'après le moment où il a prononcé le vœu. Alpi Asher Tasig. Le verset a dit, Alpi, en suivant la bouche, cela s'entend, d'après les moyens du moment où le vœu a été prononcé. Rabbi de Homer, Rabbi Yehuda nous dit, Afilu ani ve'eshir ve'chazar ve'eni, noten erech ashir. Même celui qui a prononcé le vœu quand il était pauvre, et ensuite il s'est enrichi, et de nouveau appauvri, étant donné qu'il y avait un moment où il était riche, il va donner ce que donne le riche. Maïtama de Rabbi Yehuda, puisque quand le vœu a été prononcé, et quand il vient à être payé, l'homme est pauvre. Pourquoi Rabbi Yehuda dit qu'il va devoir donner ce que donne le riche? Amakra, dit le verset, ve'imachru me'erkecha. Et s'il est impuissant à payer ton estimation, etc. à la suite du verset, dans ce cas-là qu'il n'a pas les moyens, alors il va payer d'après les moyens du pauvre. En tout cas, puisque le verset précisait, Mach hu me'erkecha, de là on va commenter, Achi ebemakuto mitrilato ve'atsofo. Quand est-ce qu'il va payer comme le pauvre? Uniquement dans le cas où il est impuissant, du début à la fin. Demande la Gemara, et là me'ata. Donc à présent, en suivant ce commentaire, à propos du sacrifice du lépreux, comme quoi il y a une différence s'il est riche ou pauvre. S'il est riche, il va apporter une bête, sinon deux oiseaux. Et le verset a dit, Veim dalhu, et si il est indigent, Hachinami achie bedaluto mitrilato ve'atsofo. Et ce que là aussi on va dire, qu'il va apporter le sacrifice du pauvre, uniquement s'il est indigent du début à la fin, depuis qu'il a été frappé de lèpre, jusqu'à qu'il apporte le sacrifice, Vechitema hachinami. Et si tu vas me dire que oui, on va le commenter ainsi, Ve'atnan, on a vu dans la Mishnah, Metzora shevi korbanotav ani, ve'he'eshir. Tout d'abord, je vais dire rapidement, quelle est la procédure de sacrifice pour la purification du lépreux. Tout d'abord, il va apporter deux oiseaux. Un des deux sera égorgé sur un récipient d'eau, et cette eau mélangée avec le sang sera aspergée sur le lépreux. Ensuite, 8 jours plus tard, il va apporter 3 bêtes. Une en tant que expiatoire, l'autre holocauste, et la troisième, délictif. Et s'il n'a pas les moyens d'apporter ces 3 bêtes, il va en apporter une pour le sacrifice délictif et 2 oiseaux, un expiatoire et l'autre holocauste. Alors on a vu dans la Mishnah, Le lépreux qui a commencé à apporter ses sacrifices tant qu'il était pauvre et ensuite il s'est enrichi, ou bien Achir Vehéni tant qu'il était riche et ensuite il s'est appauvri, Hakol Olech Achar Khatat. Tout dépend du sacrifice expiatoire. S'il l'a apporté tant qu'il était riche, il a apporté une bête en tant que sacrifice expiatoire, il devra apporter aussi une bête pour l'Holocauste. Et s'il a apporté au sacrifice expiatoire un oiseau, comme le pauvre, même qu'il s'est enrichi, l'Holocauste aussi pourra être un oiseau. Divrei Rabbi Shimon, telle est l'opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Hakol Olech Achar Hasham. D'après Rabbi Yehuda, tout dépend du sacrifice délectif. S'il l'a apporté en tant que riche, il va devoir apporter deux bêtes. Et s'il l'a apporté en tant que pauvre, il va pouvoir apporter deux oiseaux. Vetania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, et on a appris dans la Braïta Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Hakol Olech Achar Tziporim. Tout dépend des deux premiers oiseaux avec l'un desquels on l'a aspergé. Si à ce moment-là il était riche, il va apporter le sacrifice du riche. Et si à ce moment-là il était pauvre, il va apporter celui du pauvre. En tous les cas, on voit que d'après Rabbi Yehuda, on ne va pas dire qu'il doit être pauvre du début à la fin. Répond la Gemara Ha'itmarala, on a appris sur cette divergence. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Ushloshtan Mikra Echad Darshu, nous dit Rabbi Yehuda non de Rav. Tous les trois ont dit ce qu'ils ont dit en commentant le verset suivant. Le verset nous dit, qui est-ce qui pourra apporter le sacrifice du pauvre? Asher Lotasigyado Betaharato. Celui qui n'a pas les moyens au moment de sa purification. C'est quoi ce moment-là? Rabbi Shimon Savar Davara Mechaper ou Mainiu Khatat. Le verset qui précède le verset qu'on vient de voir nous dit Vechiper à Kohen à la mitaer. Et le Kohen procurera à celui qui se purifie son expiation. Alors nous dit Rabbi Shimon, c'est quoi la Tahara, la purification du verset qui nous concerne? C'est ce qu'on a vu dans le verset d'avant. La Kapara, l'expiation. Alors Mainiu, de quel sacrifice s'agit-il? Khatat. Du sacrifice expiatoire. Alors, Asher Lotasigyado, celui qui n'a pas les moyens, Betaharato, au moment du sacrifice expiatoire. Rabbi de Savar, Davara Marchir, Umayniu, Hasham. D'après Rabbi Yehuda, la Tahara, la purification, le sacrifice qui va lui permettre de revivre normalement parmi les purs, le sacrifice qui va le rendre apte, et celui-ci c'est le sacrifice délictif. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Savar, Hagorem Lotahara. Et d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Taharato, cela s'entend, le sacrifice qui déclenche la procédure de la purification, ou Maini ou Tziporin. Et c'est quoi ce sacrifice? C'est les deux premiers oiseaux. Demande la Gemara, Ve'elahu Lamale. Alors, puisqu'on ne pourra pas commenter ce verset pour apprendre que c'est uniquement dans le cas où le lépreux est pauvre du début à la fin qu'il va apporter le sacrifice du pauvre, alors tout de même, qu'est-ce qu'on va commenter du mot Hu? Répond la Gemara, le Rebbe que de Hitler, ou le Rabbanan que de Hitler. On a vu justement comment on va commenter le mot « hu » au début de la page, juste avant la Mishnah. D'après Rabbi, selon son commentaire, et d'après Rabbanan, selon leur commentaire. Demande la Gemara, « et là, me'ata, ve'hu ed » Alors, à présent, à propos du témoin, comme quoi le verset a dit « ve'hu ed » et lui est témoin, « ad she'yé kasher mitrilato ve'atsofo » Est-ce qu'on va le commenter de la même façon que pour accepter le témoignage, le témoin doit être apte du début à la fin ?« Ve'hitema hachinami » Et si tu vas dire que oui, cela est ainsi, Vatania, on a pris dans la braïta, Haya yodea lo bedut atchelona sachatano, bena sachatano, celui qui a vu chez une personne étrangère à lui un fait quelconque dont il pourra témoigner, et ensuite cette personne étrangère est devenue son beau-père, lui-même est devenu son gendre, donc en tant que membre de famille, il ne pourra plus témoigner, ou bien, Ikear venitraresh, il a vu le fait quelconque tant qu'il était bien portant, et ensuite, il est devenu sourd, ou bien patouar venistama, chafouy venishtate, il était voyant, il est devenu aveugle, il était saint d'esprit, il est devenu idiot, arrêtez pas saoul, puisqu'au moment de déposer son témoignage, il n'est plus apte, donc il est pas saoul, on ne pourra pas recevoir le témoignage. Néanmoins, aval ayayode aloedut, atchrona sechatano, vena sechatano, vahakach metabito, il a vu le fait quelconque avant que celui-ci devienne son beau-père. Et ensuite, il est devenu son beau-père, étant donné que lui-même a pris sa fille. Et ensuite, cette fille est morte. Et donc, il n'est plus son beau-père. Et il est de nouveau apte au témoignage.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Yomi, quotidiennement en vidéo.